Je serais curieux de savoir qui d'entre vous est venu vraiment à cause du thème, ou grâce au thème, ou parce que vous avez vraiment un intérêt pour ce thème du désir, et qui d'entre vous, quel que soit le thème, de toute façon serait intéressé à venir aux retraites d'un jour. Juste, est-ce qu'il y a certaines personnes qui vraiment ce qui les a décidés, c'est le thème? Ok. Ok, ça me donne une grande liberté pour le choix des thèmes. Hein. Donc quand je prépare les retraites d'un jour, ben je les prépare des mois à l'avance. En fait, je me dis, ben voilà, il va falloir préparer le programme. Et donc je réfléchis à un thème quelque part qui fait partie de mon chemin, qui m'intéresse. Un thème en fait que j'ai envie d'explorer moi-même aussi. Ah, c'est intéressant en fait cette chance que j'ai de pouvoir avoir une écoute généreuse qui va me permettre d'aller en profondeur dans un thème que j'aime et qui va me permettre en fait d'aller plus loin dans un thème parce que pour moi et c'est clairement ici le cas avec le désir, c'est un chantier. C'est pas quelque chose d'établi, de compris que je vais essayer de vous transmettre. Ce que je vais essayer, ce dont je vais parler, c'est des questionnements et un chantier qui est en cours. Et je pense que quand on parle du thème du désir, ça ne peut être qu'un chantier qui ne va pas se finir avant nous. Et donc c'est intéressant quand je prépare un thème pour les retraites d'un jour, je me dis bah tiens, qu'est-ce qui serait soutenant? Qu'est-ce qui moi m'intéresse? Qu'est-ce qui serait soutenant pour notre communauté, pour ceux qui vont venir, pour la Sangha? Et voilà. Et puis je prends un temps pour y réfléchir, mais je prépare pas vraiment dans le détail. Et là, je remarque en fait quand j'en viens vraiment à préparer les discours, à me dire bon voilà, on approche, qu'est-ce que en quelques jours pour commencer à y réfléchir et tout ça. Et je remarque que par rapport à la manière dont je l'ai présenté peut-être il y a des mois, des choses ont bougé. Voilà, et c'est pour ça que j'étais intéressé de savoir combien vous collez au thème et combien vous êtes là. Parce que bon, voilà, par exemple, dans la présentation sur le site, il y avait une emphase sur les intentions pour cette journée-ci. Et je pense qu'elle va se décaler un petit peu cette emphase sur les intentions. Donc, si les intentions, c'est quelque chose qui est vraiment important pour vous et que c'est pas suffisamment abordé dans ce discours-ci, dites-le moi et je vous enverrai le discours qui correspondra plus peut-être aux intentions. Alors, quand j'ai commencé à réfléchir au thème du désir, ben, je me suis dit, voilà, j'ai cherché un petit peu à comprendre et à distinguer. Et en fait, j'ai vu que déjà, ben oui, il y a le désir, mais il y a l'envie. Hein, c'est un peu comme de même nature et en même temps, c'est un peu différent. Il y a le désir, il y a l'envie, il y a le besoin aussi. Comment est-ce qu'on distingue désir, envie, besoin? Et puis après, alors là, commencer une liste, il y a l'attraction, les souhaits, l'appétence, la passion. Aussi, c'est dans le monde du désir, mais c'est autre chose que le désir. Vous voyez, où sont les subtilités, les préférences, la convoitise, la libido, les inclinations, les ambitions, les intentions, les aspirations, toute la relation avec l'amour. Je fais, oh là là, c'est un chantier là. Et puis, après, il y a les catégories. Il y a des désirs qui sont conscients, il y a des désirs qui sont inconscients. On peut ranger tous ces désirs en fait dans des catégories. Et il y a plein de manières de faire des catégories. On peut aussi faire des catégories de désirs plus superficiels et de désirs plus profonds. Des désirs qui sont individuels, très personnels, et des désirs qui sont collectifs. C'est toutes des manières en fait de faire des catégories. Des désirs qui sont innés, comme le désir d'être heureux par exemple. Ou des désirs qui sont acquis au fur et à mesure de notre évolution. Il y en a qui sont sains, il y en a qui sont malsains. Il y a plein de manières de faire des catégories. Il y en a qui sont réalistes, il y en a qui sont complètement irréalistes. Il y en a qui sont égoïstes et d'autres qui sont altruistes. Il y en a qui sont habituels, c'est une habitude, et il y en a qui sont contextuels, qui dépendent du contexte, ils émergent parce que le contexte les suggère. Il y en a qui sont là, qui viennent d'une façon étrange parce qu'ils viennent pour combler un manque. C'est pas vraiment qu'on désire ça, mais en fait, on a envie de rencontrer quelqu'un parce qu'on se sent seul. Donc c'est parce qu'on se sent seul, en fait, que le désir émerge. C'est pas vraiment le désir de la personne. C'est pour combler un manque. Ou on mange parce qu'on s'ennuie. Ah, c'est encore tout un monde, ça. Puis après, il y a tous les désirs d'identité, envie d'être différent de ce qu'on est, acquérir des qualités, acquérir des compétences. Il y a tous les désirs du domaine spirituel, les désirs d'unité, d'éveil, de compréhension, de lâcher prise, de réalisation. Puis il y a tous les désirs négatifs. Dans le bouddhisme, en fait, tout ce qui est, par exemple, l'attraction, pardon, la répulsion, attraction, répulsion. En fait, c'est le même mouvement dans le bouddhisme. C'est, je désire m'éloigner de ça. Quelque chose qui me repousse, en fait, c'est le désir que ça s'arrête. J'ai une douleur pendant la méditation et je voudrais que ça s'arrête. C'est un désir, en fait. Le refus est un désir que quelque chose change. La résistance, le rejet, toutes les peurs d'anticipation, la haine, l'arrogance, le désir de supériorité. Puis il y a tout le domaine intermédiaire de quelque part l'absence de désir, la différence par exemple. La différence, on n'a pas, c'est pas un mouvement vers quelque chose ou qui nous éloigne de quelque chose. C'est neutre, le désintérêt. Alors là, j'ai commencé par ça et puis j'ai fait aïe, 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 dans quoi est-ce que je me lance? Et puis en fait, ça m'a un peu éclairé sur le pourquoi. Pourquoi en fait, il y a une position très simple face à vis-à-vis de tout ça. Une position très simple. Tout ça est impermanent. Vous voyez, plutôt que de rentrer dans la complexité du désir, en fait, il y a une grande simplicité dans un style d'enseignement qui va être, c'est pas la peine de plonger là-dedans. Tout ça est impermanent. Voyez l'attraction comme impermanente. Elle va partir. Voyez la libido comme impermanente, ça va s'arrêter. Voyez tous les désirs et toutes ces formes de désir et de répulsion et d'indifférence, ces trois domaines du désir, en fait, avec toute leur complexité, peut être accueilli d'une façon extrêmement simple, impermanent. Et c'est une grande partie de l'enseignement qu'on va recevoir dans les différentes traditions, surtout dans la tradition du bouddhisme, qui est très très présente dans, enfin qui est tout un aspect de la spiritualité actuelle occidentale. Il y a d'autres, hein, la permanence est juste une manière de voir le désir. Il va y avoir, par exemple, cette citation de Nisargadatta Maharaj que j'aime beaucoup. Je cite souvent Nisargadatta Maharaj, qui est un sage indien, et qui dit, ce qui est réel ne meurt jamais, ce qui est irréel n'a jamais existé. Illusoire, transient. Ce qu'on cherche, c'est quelque chose qui est au-delà de ce qui va et qui vient, qui change tout le temps. Et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Beaucoup d'enseignements vont prôner le fait qu'il faut se concentrer sur ce qui est au-delà des manifestations, au-delà du changement, au-delà de ce qui va et qui vient, au-delà de ce qui est construit, au-delà de ce qui apparaît dans notre expérience. Au-delà de ce qui est perceptible par les sens, au-delà de ce qui existe dans le temps. Hein, beaucoup d'enseignements pointent vers là. Magnifique, extraordinaire et extrêmement inspirant, extrêmement libérateur. extrêmement libérateur. Dès que, par exemple, on voit, il y a un désir qui nous prend et qu'on se rappelle de la permanence et qu'on sait que ça va passer, il est déjà moins fort. Dans l'enseignement du bouddhisme, il y a les quatre nobles vérités. La première noble vérité, c'est la souffrance. L'existence de la souffrance. La souffrance qui est un grand mot, mais qui peut aussi être juste la satisfaction, n'importe quelle résistance avec la réalité telle qu'elle est. N'importe quelle résistance à la réalité telle qu'elle est, aux choses telles qu'elles sont. N'importe quel, le plus petit moment d'insatisfaction. Voilà. C'est en fait la première noble vérité. L'existence, dans notre expérience quotidienne, de l'insatisfaction. Et la deuxième noble vérité, c'est les causes. Hein? Quelles sont les causes, en fait? Et dans les causes de la satisfaction, il y a l'avidité. L'avidité qui est une forme extrême de désir. C'est du désir avec de la saisie, de l'attachement, du vouloir, de la capacité de lâcher. Et ça, et la cause, est une des causes. Greed, hatred and delusion, donc l'avidité, la haine et l'illusion, sont dites les trois causes en fait de la souffrance de l'homme d'après le Bouddha. Donc l'avidité, une forme extrême de désir, crée de la souffrance. Et ça rejoint certains de nos philosophes. On a par exemple Schopenhauer qui dit le désir et la souffrance. C'est très, quelque part, unilatéral. Le désir est la souffrance. Ou le désir est la cause de toute souffrance. De toute souffrance. À cause du fait que ça engendre le manque, la sensation de manque, le désir engendre le manque. Sartre, le désir est un manque. Donc on a une tradition philosophique qui met en évidence ce que Bouddha, de son côté, met en évidence aussi, c'est que le désir, et là c'est un peu plus que le désir, c'est l'avidité. L'avidité, en fait, est une des causes de la souffrance. L'agitation faisant partie, par exemple, de la souffrance. Une des causes de l'agitation, c'est l'avidité, c'est l'envie de posséder. Nisargadatta Maharaj, de nouveau, nous dit il nous fait cette petite démonstration qui est très très inspirante pour moi, que je cite souvent. Il nous dit que c'est l'ignorance de notre nature, le fait de ne pas savoir vraiment qui on est, et là ça rejoint la vision du Bouddha, l'ignorance de notre nature crée la sensation de manque. Donc il applique que si on connaissait vraiment notre nature, on n'aurait pas cette sensation de manque. On aurait une sensation de complétude, d'unité. Et que c'est cette sensation de manque qui génère le désir. De la sensation de manque naît le désir. Du désir naissent nombreuses pensées, dont certaines deviennent des actions. Je trouve ça très très éclairant et inspirant. Ça amène vraiment à la nécessité de la connaissance de soi, au-delà de toutes ces idées qu'on a de nous-mêmes, d'aller vraiment en profondeur pour se sentir complet, pour être nourri, pour trouver des espaces dans lesquels on ne manque pas, dans lesquels le manque en fait n'existe pas. Hein, c'est une des dimensions de la méditation dont on peut faire l'expérience, c'est de plus l'esprit se pose, moins en fait il y a du désir. Plus l'esprit se pose, moins il y a la sensation de manque. Plus un moment, on peut trouver une grande sensation de plénitude et de satisfaction dans l'absence de mouvement, dans le fait qu'il ne se passe rien. Et ça, tout naturellement, pousse à Pousse à penser que la libération viendra avec l'éradication du désir. Et d'ailleurs, c'est très bien symbolisé dans l'histoire du Bouddha, où la première chose qu'il fait quand il entame sa quête spirituelle, quand il quitte son royaume, la première chose qu'il fait, c'est d'essayer de tuer le désir. Donc il essaye vraiment, il quitte tout le monde des plaisirs, donc dans l'histoire, dans la mythologie du Bouddha, il était fils de roi, il avait accès à tous les plaisirs, et il quitte tout ce monde-là. Il quitte même ses beaux vêtements et tout, et il s'habille de la façon la plus simple, et il va jusqu'à l'extrême de ne se nourrir que de racines, de ne même plus aller mendier dans les villes pour avoir du riz, et de ne se nourrir que de racines pour un moment qui est la cessation de cette sensation de manque. De tuer, en fait, d'éradiquer complètement ce mouvement vers je veux plus, je veux autre chose que ce qui est juste là. Et ça pousse, en fait, de voir la problématique, les problèmes engendrés par le désir. Hein, les problèmes engendrés par le désir, on le voit, la libido, par exemple, la quantité de souffrance dû à l'existence du désir de qu'on appelle la libido, depuis des milliers d'années, dans tous les pays du monde, jusqu'à aujourd'hui. Le fait d'être possédé par ce désir, et le nombre de... ça va de l'extrême du viol jusque aux pressions dans un couple. Quand quelqu'un n'est pas maître de son désir et fait une pression envers son conjoint pour arriver à satisfaire son désir. Toutes les manipulations du fait d'un manque de contrôle de son désir, dans tous les domaines, toutes les exploitations, toutes les injustices, le désir de puissance, le désir d'avoir raison, le désir de dominer, le désir d'être plus que l'autre, le désir d'avoir plus que l'autre. On peut tout expliquer avec ça, on peut expliquer la souffrance du monde, en fait. Jusqu'aux crises actuelles, sociétales, écologiques, économiques, tout ça, la racine, vient du désir. Alors on comprend que, ben quand on le voit et quand on voit cette l'immensité du problème, on se dit ben il faut en fait le désir peut être vu comme juste un ennemi. Le désir est souffrance. Et de là naissent une emphase qui va dans un seul sens, le sens de l'éradication du désir et du contrôle du désir, qui est très présente dans les enseignements du bouddhisme en Occident. Et aussi qui est, alors j'ai pas une grande connaissance des textes du Bouddha, mais il me semble qu'il y a même les présentations du Bouddha très peu de textes qui sont pro-désir, qui vont dans le sens de la nécessité du désir. Et c'est ça que je voudrais qu'on explore. C'est pas juste comment maîtriser, dominer et se libérer du désir. Ça aussi, bien sûr, on va l'explorer. Ça fait vraiment partie de ces approches de la spiritualité qui sont hyper précieuses et absolument, absolument indispensables. Mais je pense que ne pas ouvrir la porte à la complexité et à la nécessité du désir. Pose des problèmes de une incomplétude dans un chemin spirituel. Et ça, c'est peu souvent directement adressé dans les enseignements. C'est vers là que je voudrais aller dans cette séance et dans les trois séances qui suivent. Un bouquin de Frédéric Lenoir, je lisais qu'en fait la racine, l'étymologie de désir, c'est, je crois, du latin, desiderare. On pourrait traduire desiderare comme désidérer. Désidérer. Donc il y a la sidération. Il y a la sidération qui visiblement viendrait de Sidus et qui a à voir avec les astres, les étoiles. D'ailleurs, de là aussi, on a le mot sidéral et le fait d'être sidéré à l'époque venait de l'observation des étoiles, peut-être face à l'immensité, sidéré. Et dans cette sidération, en fait, il y a une notion d'arrêt. Il y a une notion de presque de ne plus être, de ne plus être en mouvement, en fait. Hein, ben, la sidération, en fait, c'est l'inverse d'être en mouvement. Être sidéré, c'est être complètement à l'arrêt. Et désidérer, dans ce sens-là, veut dire remettre en mouvement, nous faire quitter cette sidération, nous faire quitter cette pause complète, cet arrêt complet, et nous remettre en avant, en mouvement. Donc le désir, en fait, remet en mouvement. Et s'il n'y avait pas le désir, on resterait tout le temps en sidération. Et c'est intéressant parce qu'on peut faire le parallèle avec la méditation. On peut se dire en fait que dans les moments où on rentre dans les profondeurs de soi-même, et c'est des moments qui sont, dans mon expérience, des moments bénis, et des moments qui se produisent par eux-mêmes, et des moments qui, dans mon cas, ne durent pas une éternité. Mais de temps en temps, dans mes méditations, il y a des moments où on se retrouve posé là, en toute simplicité, avec très peu de sens de soi, très peu de sens d'identité, pas de désir, pas de mouvement, en fait, et pas de manque. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui pourrait, même si une pensée se présente, elle ne va pas me donner envie de la poursuivre. Ou d'agir. Ainsi, à ce moment-là, il y a des pensées qui continuent à venir, il peut y avoir de toutes sortes de pensées. Ça peut être des pensées de sexualité, ça peut être envie d'un café, ça peut être quoi que ce soit. L'idée, c'est même pas envie d'un café, c'est l'idée d'un café. Hein, ou l'idée d'un projet. Ou quelque chose comme ça va se présenter. Eh ben, il va pas m'attirer dans ce moment-là. Parce que, en fait, il y a une sensation de complétude, il n'y a pas la sensation de manque, il n'y a pas besoin de saisir quelque chose, et donc on ne part pas avec les choses dans ces moments-là. On pourrait imaginer que ça pourrait être une interprétation de sidéré. On est sidéré, on est complètement à l'arrêt. Et c'est la désidération, le désir, qui va faire qu'on ne reste pas là tout le temps. Sinon, où se passe la vie ? Où va se passer la vie sans ce désir? Comment est-ce que on peut élever des enfants si on n'a pas le désir? Le désir, c'est une émotion d'anticipation. Donc c'est le futur, le désir. C'est toujours le futur, le désir. On désire quelque chose pour après. C'est toujours d'anticipation, comme certaines peurs sont d'anticipation. Le désir est une émotion d'anticipation. Comment est-ce que, sans ce désir d'anticipation, on peut élever un enfant? Comment est-ce qu'on peut avoir un projet artistique? Écrire un livre, créer un spectacle. N'importe quel projet un peu à long terme. S'il n'y a pas les rosses, s'il n'y a pas cette appétence, c'est quelque chose qui nous met en joie, quelque chose dont on ne peut pas se passer, quelque chose qui est là et qui nous habite, un projet, un engagement. Comment est-ce que la vie peut se produire? Et c'est pour ça, sidérer, désidérer. Deux aspects de l'humain. Deux aspects de l'humain, la sidération et la désidération, le désir. Le non-soi, l'identité, La danse entre le non-soi et l'identité. C'est tout ça que j'aimerais qu'on explore. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on se questionne suffisamment pour voir si on n'est pas trop dans notre spiritualité d'un côté ou de l'autre. Voir si on a vraiment un respect pour les deux aspects, pour ces deux dimensions de nous-mêmes. Cette dimension dans laquelle notre identité n'apparaît pas, pour ceux qui ont une certaine pratique, pour ceux qui ont une certaine compréhension, explorée philosophiquement aussi, et compris, et remarquée. La notion de non-soi devient peu à peu une notion qui est accessible, et elle est très très attrayante, mais est-ce qu'on n'est pas en déséquilibre? Est-ce que ça ne devient pas comme si on devait toujours être dans cet espace, comme si notre identité était un problème? Ça, on rencontre beaucoup ça dans les milieux spirituels. Et c'est un manque, je trouve, de... En fait, on n'honore pas la beauté du foisonnement de la vie impermanent. Parfois, c'est juste la réponse. Parfois, des personnes qui ont beaucoup de pratiques et qui n'ont pas une pratique dans les deux directions vont être en déséquilibre et tenter de voir tout le temps tout comme impermanent. Et donc, en fait, c'est du déni. C'est du déni. Et quand il y a quelque chose qui est difficile, quand il y a quelque chose qui est souffrant, impermanent, vide. Vide d'existence propre, interdépendant. Toutes ces notions qui sont absolument magnifiques parce qu'elles nous permettent de lâcher prise, c'est certain. Elles nous permettent de lâcher prise. Mais est-ce que le désir, c'est l'inverse? Ça nous permet de prendre prise et de suivre quelque chose qu'il est nécessaire de suivre. Et c'est cette danse. C'est en pressentant en fait qu'il y a beaucoup à aller explorer là que je me disais, bah tiens, on pourrait tous ensemble aller voir un peu la danse du désir, la nécessité du désir, l'inévitabilité du désir, le problème du désir, l'immense souffrance du désir, le foisonnement à la créativité, la spontanéité du désir, tout ça. C'est toujours quelque chose que je trouve très difficile dans la compréhension de la spiritualité, dans la compréhension de l'humain, en fait. C'est cette existence antinomique de deux réalités, qui semble en tout cas antinomique. Entre ce monde de nous-mêmes ou cette expérience de nous-mêmes qui est complètement vide, où on voit toute notre individualité être interdépendante, qui dépend du temps, qui s'est construite et qui est extrêmement en lien, hein, l'identité en fait, l'identité est extrêmement en lien avec la mécanique du cerveau et la construction en fait de l'identité dans le temps. Il y a tout ce monde-là qui est absolument fascinant et qui est complètement autre que ce que nous inspire à la fois les enseignements de vacuité et de non-soi. Et aussi de l'expérience qu'on peut faire de ces enseignements. Ou d'un certain point de vue de nous-mêmes, on voit que cette identité, elle est factice. On voit qu'elle est contextuelle. On voit que si elle changeait, quelque chose de nous ne changerait pas quand même. On sent ça. On sent qu'on pourrait changer de nom, on pourrait changer de métier, on pourrait changer avoir d'autres qualités, avoir... Voilà, à un moment, on peut... tout ce qui s'est construit dans le temps pourrait changer, quelque chose de nous ne changerait pas. Et donc c'est difficile parce que quand on parle, quand on parle entre nous, quand on essaye de transmettre nos compréhensions, de quelle dimension est-ce qu'on parle ? Parce que souvent, ça se contredit. Par exemple, on va entendre des discours qui vont nous dire, mais la réalisation, pour voir clair, pour être à même de vivre pleinement, eh bien, il y a une pratique. Il faut pratiquer régulièrement. Il faut s'intéresser. Il faut s'investir. Il faut s'investir pleinement. Jour après jour, mois après mois, année après année, vie après vie dans certaines traditions. Jusqu'à la libération totale. Et d'autres enseignements vont nous dire, si c'est pas maintenant, ça ne sera jamais. La libération se produira toujours maintenant. Et toute notion de pratique nous amène à reporter le problème à plus tard. Et du coup, on ne va pas pouvoir se libérer maintenant. Ces deux discours, on peut les trouver. Parce qu'ils parlent dans deux dimensions différentes. Et donc, nous, on doit être à même de savoir de quelle dimension de nous-mêmes est-ce que cet enseignant parle ou est-ce que cette personne parle. Entre le relatif et l'ultime. Donc, on va explorer ces endroits de nous-mêmes dans lesquels le désir n'a pas sa place, dans lesquels le désir n'apparaît pas et dans lesquels il n'a pas à apparaître et dans lesquels il est problématique. Parce que tout désir va directement nous sortir, en fait, de cet espace de sidération. Sidération étant vue là comme quelque chose d'extrêmement positif. Et on va explorer aussi cette partie de nous-mêmes qui, sans le désir, en fait, est complètement asséchée. Je repensais à un ami, Paul, qui faisait beaucoup de retraites de méditation, on faisait des retraites de méditation ensemble, en Inde. Et lui, c'était quelqu'un, j'ai plus trop de contact maintenant, mais ça m'a donné envie de le recontacter. Mais Paul, en fait, il n'avait pas de désir. C'était étonnant parce que à la fin d'une retraite de méditation, on était toujours un peu, on se retrouvait comme ici, aux retraites d'un jour, vous retrouvez des gens que vous avez déjà vus avant et tout ça. Nous, on se retrouvait là en Inde, des voyageurs, des backpackers, et on faisait des retraites ensemble, et puis on se voyait année après année. Et il y avait quelque chose de l'ordre de la famille qu'on retrouve toujours dans le monde de la méditation. Et donc Paul, c'était vraiment un ami, on avait même voyagé ensemble ailleurs. Et là, à la fin des retraites, parfois on était c'était des retraites, on était 80 ou c'était des bons groupes déjà. Ben il y avait qui va où? On est en Inde, backpacker. Ah bah tiens, moi je vais là, à Nainital, voir les lacs. Ah bah tiens, moi je pense que je vais retourner à Benares. Ah ben moi j'ai entendu dire qu'il y avait un centre zen là-bas, je vais aller voir. Et puis en discutant, tout le monde disait bah on changeait de plan parce qu'on rencontrait. Ah mais tu vas là-bas, ben je vais venir avec toi. C'était l'enfer pour l'organisateur qui devait organiser les taxis qui partaient dans les différentes directions, parce que tout le monde changeait tout le temps d'avis. Au fur et à mesure qu'on entendait, ah ouais, mais non, je préfère, ah ouais, mais non, en fait, changer. Alors, les avis changeaient. Ah, parce que du désir, ah ouais, il y a ça. Mais pas Paul. Paul, il savait pas. Tout lui allait bien. Et du coup, il n'arrivait pas à choisir rien. Pas parce que tout était bien, en fait. Ni bien ni mal en fait, mais c'était et il y a des fois où bah tout le monde partait puis Paul il restait là parce qu'il y avait pas de raison d'aller quelque part et il y avait quelque chose de il était étonnant ce Paul, c'était vraiment on a voyagé ensemble et tout, on était proches à un moment et c'est quelqu'un qui avait très intelligent un esprit aiguisé, beaucoup d'humour. Beaucoup un humour qui arrive à tourner à la dérision ou qu'est-ce qui me faisait rire, mais il voyait pas pourquoi plus ça que ça ou pourquoi plus ça que ça en rien, nulle part, en rien. C'était c'était dur pour lui, c'était dur parce que il y avait tout était bon mais rien ne l'attirait et il cherchait en fait. Il cherchait à ce que quelque chose le prenne. Et il avait un peu d'argent. Et donc, alors là, il était en Inde, il a essayé pendant quelques années avec nous, mais ça a pas réveillé du désir. Après, il a été apprendre il était au Brésil, apprendre des danses et des ici la danse, la joie et tout ça. Ça n'a pas fonctionné non plus. Si on n'est plus en lien, en fait, c'est parce que il ne désire pas spécialement rester en lien avec quelqu'un. Ça le dérangerait pas, mais il va pas y penser, ça va pas, il voit pas pourquoi. Et c'est extrêmement souffrant, en fait. Je cherchais quel est le nom de ça, et ça s'appelle l'alexithymie. C'est l'absence, en fait, l'absence d'émotion, et donc de l'émotion du désir, ce désir d'anticipation, se réjouir de quelque chose dans le futur. Et c'est extrêmement problématique. L'absence d'émotion, mon désir fait partie. Les émotions aussi, c'est ce qui nous met en mouvement. Hein, motion en anglais. Hein, c'est les émotions qui nous brassent et qui nous mettent en mouvement, qui donnent des directions. Mais là, il y a quelque chose qui est vraiment subtil et aussi une exploration. Aussi une exploration qui est ouais, quelque chose de subtil. C'est dans ces moments de méditation, et chacun, il n'y a pas besoin d'être grand méditant. Tout le monde peut repérer qu'il y a des moments dans la méditation où notre sens d'identité diminue. C'est-à-dire qu'il y a moins de pensées à propos de moi, moi, moi. Déjà, quand il y a moins de pensées, forcément, il y a moins de pensées à propos de moi. Il y a moins d'individualité. Il y a moins de construction à propos de moi-même. Il y a moins de désirs, il y a moins d'émotions. Les émotions, si on va suffisamment en profondeur, s'il y a un ralentissement réel, il y a de moins en moins d'émotions. Mais c'est pas de l'alexithymie. C'est pas du tout pareil que l'état dépressif de ne ressentir aucune émotion. C'est autre chose. Elle est où la subtilité? Qu'est-ce qu'on en comprend? Qu'est-ce que ça nous dit en fait de cet état de nous-mêmes auquel qu'on accède quand on est quelque part au-delà des émotions? Ou en tout cas quand les émotions sont complètement absentes, ces émotions qui nous mettent tout le temps en mouvement, quand elles ne sont plus là, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que c'est? Cette sensation de présence, ce vide. Pas un vide déprimant comme parfois on l'imagine quand on ne connaît pas. Ce vide dont certaines personnes ont peur. On ferait peut-être mieux de dire cette vacuité plutôt que vide. Peut-être ça implique autre chose, induit autre chose. La suggestion pour ces retraites d'un jour, les retraites d'un jour, c'est toujours la possibilité, même si vous ne faites pas les retraites suivantes, la possibilité d'ouvrir un chantier d'exploration en dehors de la retraite. Donc pendant la retraite, mais aussi en dehors de la retraite, dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, de remettre en avant la question du désir. Qu'est-ce que c'est le désir? Où m'amène le désir? Quels sont les désirs? Voir un désir qui émerge, voir comment on réagit à un désir, voir s'il y a des désirs qu'on a envie de laisser tomber parce qu'on sait qu'ils nous mènent dans le mur. Et c'est quoi laisser tomber un désir et comment est-ce qu'on fait? Voir comment un désir va nous stimuler. Voir comment un désir va créer du manque et de la souffrance. Juste s'intéresser à cette manifestation du désir qui est constante, constante, et qui se produit, comme je le disais là, à tous les niveaux de notre être, du désir le plus superficiel de base au désir le plus profond d'exister, avec tout ce qu'il y a entre. Désir, 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 désir. Est-ce qu'il y a vraiment une pensée qui n'est pas vraiment quelque part en lien avec un désir? C'est une bonne question, ça. Est-ce qu'il y a vraiment une pensée qui n'est pas en lien quelque part avec un désir? Il faut pas répondre trop vite, il faut pas dire oui ou non. C'est une question. C'est quelque chose qu'il faut de se dire, tiens, c'est vrai, regardons, à cette pensée-là, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir derrière comme désir? Parfois, c'est évident. Parfois pas. Peut-être qu'il n'y en a pas. C'est une question. Mais telle est l'inspiration pour le mois qui vient et pour les 3 mois qui viennent, pour tous ceux qui font le cycle. Voilà ce qu'on va explorer. Dans toute la diversité, aussi comment se dépatouiller quand on est coincé dans des désirs, des addictions. Hein? Comment est-ce que la méditation peut aider à lâcher un petit peu, laisser un petit peu de la distance. Toutes ces approches magnifiques que je citais, voir l'impermanence et autres, on en verra d'autres. Mais aussi de vraiment s'émerveiller de l'émergence d'un désir, en tout cas ceux qui sont honorables, et de les respecter, et de s'engager avec ces désirs. Comment mieux s'engager? La nécessité de s'engager. On va essayer de prendre les deux directions. Merci pour votre écoute.
Et un petit mot de la fin. Soutenu par l'association Dharma Nature, je fais le choix de proposer ces discours de façon libre et non commerciale. Si vous appréciez les écouter, s'ils vous sont utiles, pensez à nous soutenir de temps en temps avec un don que vous pouvez envoyer depuis le site www.dharmanature.org. Sachez qu'aucune somme n'est trop petite, car votre démarche exprime votre considération. Et ça fait vraiment plaisir. Je vous souhaite une belle journée et une belle pratique.